l'Évangile. Vivre l'Évangile. Et ce matin, nous allons parler d'un aspect de ce que c'est vivre l'Évangile et une exigence importante de savoir renoncer, donner tout au Seigneur Jésus. Alors, c'est un message assez, exigeant. Et il y aura quelques anecdotes afin d'illustrer cela pour la gloire du Seigneur. Mais que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs enseignables et à sonder nos cœurs pour voir si vraiment nous sommes sur les voies de sa volonté, de l'éternité. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, tu nous places devant ce texte ce matin que nous allons lire. Donne-nous la foi, donne-nous l'humilité, donne-nous la grâce de saisir ce que tu as à nous dire ce matin. Nous mettons à tes pieds nos vies, nous n'avons qu'une seule vie à vivre et nous désirons la vivre pour toi. Et c'est vrai que cette demande que tu as de notre vie est exigeante. Et tes commandements sont exigeants, mais ils sont parfaits. Alors donne-nous ce matin de nous humilier pour reconnaître peut-être dans ce domaine de tout donner, là où nous n'avons pas encore tout donné. Je pense à ce proverbe où Dieu dit à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et c'est avant tout une chose de cœur, alors donne-nous d'être sensibles aux voies de Dieu et à donner notre vie réellement, à ne pas la reprendre. Tu vois, parfois nous avons peur de nous donner et tout donner, parce que cela est exigeant. Mais Seigneur, tout donner, c'est tout recevoir en même temps. Alors donne-nous de comprendre ce principe ce matin et de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre dans vos Bibles Luc chapitre 14 et verset 28. Luc chapitre 14 et verset 28. Nous allons parler de l'exigence de disciples que le Seigneur nous a laissé. Ce n'est qu'une des exigences, il y en a plusieurs autres. Mais la Bible dit en Luc chapitre 14 et verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En fait, dans ce passage ici, il y a une exigence qui est très exigeante, excusez le pléonasme, c'est que le disciple doit renoncer à tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez me dire, mais moi je ne possède pas beaucoup. Mais ce que vous possédez appartient à Dieu. En fait, ce n'est pas une question de combien on a, mais combien on donne au Seigneur en pensant que tout lui appartient. La Bible dit qu'il faut renoncer à soi-même. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors ce quiconque, c'est chacun de nous en tant que chrétien. Ce n'est pas une certaine catégorie de gens, ceux qui doivent tout donner et ceux qui ne doivent pas donner ou retenir. C'est un appel à tous ceux qui se disent chrétiens et qui le sont réellement. En fait, chacun qui se dit chrétien, donc chacun de nous ici, qui nous nommons chrétiens parce que Jésus est venu dans nos vies, nous a transformés et nous a révélé le salut, son œuvre. Ne renonce pas. Donc ce message doit mener l'auditeur et chacun de nous plus qu'à une intention, mais à un acte précis. Le mot « renoncer » ici pourrait être traduit dans le grec par « abandonner », mais bon, c'est un synonyme. L'idée ici, c'est que Dieu nous appelle plus qu'à une considération, mais à un acte. Et ensuite, la Bible dit « tout ce qu'il possède ». Alors, nous pourrions penser que peut-être nous avons donné une partie et c'est suffisant pour Dieu. Dieu n'a besoin de rien. mais il demande à ce qu'on lui donne tout ce que l'on possède, c'est-à-dire tout ce qu'un homme est, tout ce qu'il possède, on va dire instruction, talent, volonté, et bien matériel. En fait, c'est une condition, une exigence sans équivoque pour être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, c'est un élève à l'école du Seigneur, c'est celui qui suit les commandements de son maître. Et donc, c'est une condition sans équivoque pour porter le nom de disciple, c'est renoncer à tout. Alors, je vais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer à tout? Ça veut dire que je dois tout vendre ce que j'ai et être comme un vagabond qui va dans la rue. Vous connaissez un petit peu l'histoire des hippies en Californie? À un moment donné, bon, peut-être au nom de Jésus parfois, ils ont tout abandonné et ne plus savoir où aller. Alors, à Québec, on avait une blague, on disait, oui, vous savez comment on appelle un hippie qui ne sait pas où dormir? Un hippie sans lit. Un hippie sans lit. Mais ce n'est pas ça être un disciple qui donne tout. Ce n'est pas vivre comme quelqu'un qui donne tout à une secte et voilà, je renonce à tout. Et il y a des, malheureusement des sectes qui entraînent des gens à tout donner et qui sont maintenant liés à un mouvement. Ils sont dépouillés, ils perdent leur raison, ils perdent leur entendement et finalement, ils sont soumis, n'est-ce pas, à une espèce de règle de dépouillement qui n'a rien à faire avec celle que le Seigneur Jésus nous demande en toute liberté et respect de notre conscience, de notre volonté, car Dieu ne force jamais la porte de nos cœurs. En fait, qu'est-ce qu'un vrai disciple? Peut-être que vous avez lu le livre de McDonald, Le vrai disciple. C'est un livre passionnant à lire que je vous invite à acheter sans plus tarder et à lire. Mais un vrai disciple, c'est quelqu'un, tout simplement, qui travaille courageusement, qui est laborieux. Il n'y a pas de paresse dans la vie de disciple. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de disciple sans discipline, notamment dans la discipline du temps. Il travaille fort pour pouvoir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins. Il n'est pas quelqu'un qui dépend des autres, qui profite des autres, mais qui dépend du Seigneur Jésus. Et sa vie devient frugale parce qu'il vit de façon économique le plus possible afin de pouvoir investir le plus possible dans l'œuvre du Seigneur. Je dois dire que j'étais assez émerveillé de voir un de nos enfants apprendre à vivre par la foi, alors qu'il était étudiant, à soutenir la mission, à donner ce qu'il possédait sans vraiment savoir comment il allait vivre et comment Dieu l'a béni. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui me fait sourire aujourd'hui avec les années passées. Mais étudiant en théologie, j'étais vraiment dépouillé. Et je me souviens que je vivais dans un petit studio avec un de mes collègues étudiants à Paris. Et nous n'avions rien. Et le soir, on secouait le sachet de soupe en poudre là pour manger. Des fois, on avait du pain, des fois, on n'en avait pas. Et personnellement, j'ai vécu quelque chose d'un peu délicat. Je n'avais plus de dentifrice pendant 3 mois. Mais je me brossais les dents quand même, je vous rassure. Hein. Mais ce n'est pas le même goût quand même. Vous voyez, maintenant, quand je prends le tube le matin et je mets un peu de dentifrice, je dis, waouh, c'est quand même agréable d'avoir un dentifrice. Et puis un jour, il y a une dame qui est venue, qui nous a rencontrés dans l'ascenseur. Je vous raconte l'anecdote. Alors, mon ami et moi, on secouait le sachet, on mettait ça dans de l'eau, c'était notre repas. C'est vrai que j'étais plus mince à l'époque, n'est-ce pas? Dû à ce régime un peu forcé. Et quand je me suis marié, ma femme m'a dit, tu me fais pitié. Et du coup, elle m'a nourri. Enfin, vous connaissez la suite. Et donc, j'ai dit à mon ami, comme ça, poussé par le Seigneur, j'ai prié et j'ai rendu grâce pour le repas. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour le bon dessert que tu nous donnes. Et mon ami m'a regardé et dit, Michel, il y a quelque chose qui ne va pas en lui, là. Je ne sais pas si c'est le manque de sucre dans sa tête, le manque de nourriture, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire au Seigneur? Mais c'est venu spontanément. On sort de l'appartement, on monte dans l'ascenseur, et la voisine se précipite vers nous et dit, « Ah, les étudiants, écoutez-moi, j'ai fait tellement de gâteaux cette journée que je ne sais pas en quoi, puis j'ai pensé à vous, tenez, je vous donne ces bons biscuits. » Et nous avons mangé le dessert pour lequel j'avais prié dans l'ascenseur en descendant du 3e étage. Et mon copain m'a regardé et m'a dit, « Michel, je pense que maintenant, je peux croire en toi. » C'est incroyable comment le Seigneur peut parfois nous tester dans notre vie, dans les petites choses. À l'école du Seigneur, rien n'est perdu. Il y a un jour, un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons et Jésus voulait nourrir la foule. Il n'y avait rien, les disciples n'avaient rien. Et il a demandé à ses disciples, des adultes, mais qu'est-ce que vous avez à donner ? Rien. Ah oui, il y a ce petit jeune homme-là qui a 5 pains et 2 poissons, il semblait plus riche que les autres. Il avait gardé ça minutieusement. Et puis le Seigneur a multiplié le pain et le poisson, il a brisé le pain. Et des fois, c'est en donnant le peu que nous avons que le Seigneur brise le peu que nous avons pour le multiplier. Nous ne réalisons pas combien parfois ce qui nous semble un rien, mais qui est attaché à nos cœurs, devient un tout pour le Seigneur, pour qu'il soit glorifié dans nos vies. J'aimerais vous raconter l'histoire de Mary Jones, une Galloise, qui est née en 1784 exactement. Et à l'âge de 10 ans, elle a économisé pendant 6 ans pour pouvoir acheter une Bible. Ses parents allaient à l'église méthodiste et ses parents étaient pauvres. Ils habitaient une maison, mais ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas l'argent. Quand elle allait voir son papa, elle dit « Papa, achète-moi une Bible ». Son papa a dit « Mais tu sais, Marie, combien c'est cher d'acheter une Bible ». Donc elle a travaillé dans les champs pour des voisins, etc. Elle a tout fait et pendant 6 ans, elle a mis de l'argent de côté pour pouvoir acheter une Bible. Et elle est allée à 40 km de son domicile, à un endroit, il y avait un homme qui était très connu comme prédicateur et serviteur de Dieu qui s'occupait d'écoles pour des pauvres. Et elle savait que cet homme vendait des Bibles. Elle est allée le trouver, elle a marché toute la journée et elle a déposé tout l'argent qu'elle avait. Tout l'argent qu'elle avait. Ce n'était pas réellement suffisant. Mais ce monsieur qui s'appelait Thomas Charles avait une seule Bible qui lui restait et il lui a vendue. Il a pris l'argent, il l'a nourri, puis elle est repartie. Mais cet homme, suite au fait que cette petite jeune fille avait fait tant de kilomètres, avait économisé pendant tout tellement d'années, a été tellement bouleversé qu'il a commencé à réunir des gens haut placés dans le domaine religieux et qu'ils ont fondé la Société biblique britannique pour l'étranger. Et ils ont commencé à imprimer des Bibles pour les Gallois qui étaient pauvres et ainsi de suite. Et la Société biblique est devenue une action mondiale. Parce qu'une petite fille, le peu qu'elle avait, mais avec un grand cœur, voulait posséder une Bible. Dieu peut multiplier les petites choses qui sont petites dans nos vies pour se glorifier. Il n'y a pas de hasard dans notre vie. Dieu reste souverain, mais il nous teste dans notre voie pour voir jusqu'à quel point on lui donne réellement notre cœur. Et ce matin, ce message est précieux, bien-aimé, parce que ce que Dieu désire le plus, c'est avant toute chose notre cœur. C'est avant toute chose. Comme une jeune fille ou un jeune homme qui voudrait le cœur de la bien-aimée. Mais Dieu, lui, il veut notre cœur parce que nous sommes ses enfants. Il s'est donné entièrement et en échange, il attend à ce que nous le donnions entièrement. Exactement comme notre frère Étienne a lu ce matin en Romains chapitre 12, verset 1, une consécration totale. Donc, quand Jésus nous dit que pour être son disciple, on doit renoncer à tout ce que l'on possède, c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option dans notre vie, même si ça semble tellement exigeant. En fait, c'est un ordre à mettre en pratique pour la totalité de nos biens, de ce que nous sommes, de ce que nous possédons. Mon fils, donne-moi ton cœur. Comme quelqu'un a dit, la question n'est pas combien je devrais lui donner, mais combien je devrais garder. En fait, c'est Dieu qui est le possesseur, non seulement de ma vie, de mouvement et l'être, parce que notre vie tient un fil. C'est pour ça qu'on doit apprendre à bien compter ses jours. En fait, aimer Dieu, c'est aimer Dieu plus que tout ce que l'on possède. Donc l'attitude face à la possession, quelle qu'elle soit, c'est d'aimer Dieu plus que tout. On ne possède rien. Ces jours-ci, je suis en réflexion un petit peu dû à des petits événements de ma vie. C'est incroyable comme l'homme essaie de contrôler les situations. Vous avez remarqué ça? Nous sommes des êtres humains tellement têtus parfois. Et on pense bien faire, il y a une anecdote, je ne vais pas entrer dans les détails, quelqu'un avec qui j'étais en contact cette semaine, et je me suis dit, mais cet homme, il veut tout contrôler. Et en voulant tout contrôler, parfois par ignorance, il bouge partout, et puis finalement, sans se rendre compte, il est à côté du bon sens, de la sagesse. Perturbe les gens qui l'entourent. Nous devons apprendre à perdre contrôle. C'est un prix peut-être à réaliser dans notre vie. Et pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à tout et comment? C'est ce qu'on va répondre ce matin aux questions clés. Comment, pourquoi d'abord devrions-nous renoncer à tout? Tout d'abord, tout simplement, parce que Dieu nous le demande. Je suis heureux ce matin que ce n'est pas moi qui vous demande, en tant que berger, si vous voulez bien, que vous devez renoncer à tout ce que vous possédez. Parce que Dieu me le demande en premier, mais il le demande à chacun de nous. C'est sa parole qu'il demande. Mais la bonne nouvelle, Dieu nous le demande parce qu'il a promis de pourvoir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Ma femme et moi, ça nous est arrivé de prier alors que nous n'avions plus rien à manger. Ça se passait à Québec. Rassurez-vous, on est bien nourris ici, pas de souci pour nous. Mais à Québec, on a connu des moments difficiles. Je me souviens d'une missionnaire qui nous a visités, qui s'est assise sur un vieux sofa qu'on nous avait donné, et j'étais très embêté parce que quand elle s'est levée, le ressort du sofa s'est attaché à son vêtement. Mais que voulez-vous ? On avait ce que Dieu nous avait donné. Et on l'a invitée à manger, et on lui a donné discrètement, on a ouvert le frigo discrètement, puis on lui a donné tout ce qu'on avait. On n'a rien dit, on a loué le Seigneur. Et le lendemain matin, on ne sait pas d'où c'est venu, peut-être elle a compris, je ne sais pas, on ne sait pas, on avait des sacs d'épicerie, mais devant la porte, remplis à ras-bord, comme un cadeau. Et Dieu a pourvu à nos besoins. J'aimerais vous dire une chose, et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes, n'est-ce pas, à la même école du Seigneur. Alors j'aimerais vous lire tout d'abord un premier passage en Hébreux 13, verset 5, qui dit, je vous le lis sous les biens, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, on sait que c'est une idolâtrie, la cupidité, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est vrai qu'on peut rencontrer des gens beaucoup plus aisés, qui ne semblent pas avoir aucun problème matériel. On se dit, ah, si ça pouvait m'arriver! Ou pour ceux qui sont proches de la retraite, mais si je pouvais avoir tout ce qu'il fallait pour vivre une retraite heureuse et suffisante. Mais parfois, Dieu nous teste pour nous donner juste ce dont on a besoin, ou même pas encore ce dont on a besoin, pour apprendre à lui faire confiance, à vivre par la foi. J'aime beaucoup le verset en Philippiens 4, 19 qui dit « Et Dieu pourvoira tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ ». C'est incroyable! C'est Dieu qui pourvoit avec gloire. Alors, le peu que nous avons, si nous l'avons, apprenons à rendre grâce au Seigneur Jésus. Et je pense bien sûr à Matthieu 6. Vous savez que Jésus nous a enseigné en Matthieu 6 de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Quand nous avons acheté la maison, ou loué d'abord la maison à la campagne, je dis, mais les enfants, comment on va faire? Ils vont être à l'université à Toulouse. Et puis finalement, combien ça va être difficile, tous les trajets. Il n'y en a aucun qui a fait l'université à Toulouse. On s'inquiète pour rien. 90% de nos inquiétudes ne servent à rien, prouvent les psychologues. Je me souviens un jour, excusez des petites anecdotes, mais pour illustrer le message, pour glorifier le Seigneur, on était à Chicago, Louis et moi, et on se préparait à partir à Québec, et on avait, mais pratiquement rien. Je dis, Seigneur, là, on s'en va, comment on va vivre là-bas? Et j'étais assis dans un parc, et le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Quand j'ai donné ma vie pour entrer à l'école biblique, j'ai quitté mon métier, c'était pas toujours évident, il m'avait dit qu'il pourvoirait à mes besoins. Il me l'a rappelé assis sur ce banc pour dire, mais Michel, c'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. On est entré dans une église avec 23 centimes dans notre compte en banque et on est parti, l'évaluation du bâtiment et du terrain, gloire à Dieu, était de plus $1 million. Nous avons eu 6 enfants, ils n'ont manqué de rien. C'est vrai que la vie n'était pas toujours facile, mais Dieu s'est manifesté. Je ne peux pas vous raconter les miracles du Seigneur Jésus, comment Dieu a fait dans des circonstances particulières où Dieu a pourvu miraculeusement. Pourquoi ? Parce que Dieu honore ceux qui ont foi en lui. Pas de place pour la révolte, bien-aimée. On peut parfois se révolter, s'irriter face à des situations de manque de matériel, mais c'est une question de foi. Imaginez que votre enfant vient vous demander quelque chose, un besoin pressant. Si vous l'aimez, allez-vous le rejeter, le mépriser, ne même pas écouter ce qu'il a à vous dire comme besoin exprimé? Et Dieu est un père. Un père qui veut prendre soin de moi. Un père qui est prêt à m'aimer. Je pense à Charles Studd qui était en Chine. Vous savez, c'est un de mes missionnaires préférés. Lisez sa biographie, c'est extraordinaire. Et en fait, cet homme, à un moment donné, vivait en Afrique. Il était d'abord en Inde, en Chine, puis en Afrique. Et à un moment donné, son épouse est tombée malade. Il avait juste l'argent pour envoyer son épouse en Angleterre pour être soignée, ce qui est très légitime, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit, la vie avec le Seigneur, l'a poussé à croire que Dieu allait pourvoir à ses besoins. D'abord, Dieu a guéri sa femme. C'est extraordinaire, cela. Et Dieu a pourvu pour qu'il puisse continuer son ministère en Afrique et voir des centaines et des centaines de gens venir au Seigneur. Dieu est prêt, alors que nous ne sommes rien, si nous confions ce que nous croyons être, si peu en fait, Dieu en prend soin. C'est quand on est imbu de soi-même et de ses propres capacités que Dieu ne peut pas trop agir. Mais si on considère que devant Dieu on n'est rien, et devant les hommes, un rien peut devenir un tout pour le Seigneur. Non seulement Dieu nous le demande, Dieu a pourvu à nos besoins, mais le retour du Seigneur est imminent. Vous allez dire, mais on a toujours dit ça depuis les apôtres, le Seigneur revient. Et puis, justement, les missionnaires en Afrique, Livingstone, Charles Studd, Adoniram Johnson en Birmanie, tous les missionnaires qui ont marqué leur temps, prêchez, convertissez-vous, le Seigneur revient. Et pourtant, il n'est pas encore revenu. Mais n'empêche pas moins que dans ce principe de tout donner, il y a le principe que si le Seigneur revenait aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'emportera rien au ciel. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons donner au Seigneur parce que c'est aujourd'hui le moment de donner. On peut penser plus tard, mais si le Seigneur revient, au son de l'archange, à la voix au son de la trompette, voix de l'archange, gloire à Dieu, c'est la plus belle chose qu'on peut espérer, même avant le mariage, désolé pour ceux qui veulent se marier. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, d'être au ciel, être enlevé et glorifier le Seigneur pour l'éternité. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et qu'est-ce qu'on va emporter de cette terre? Rien. Parce qu'on est poussière, en retour de la poussière, on n'est rien. Vous êtes d'accord? Et un rien, plus rien, plus rien, c'est encore un rien. Donc on n'a rien à emporter. Mais est-ce qu'on vit vraiment pour l'éternité, bien-aimé? Parce que le chrétien est appelé à vivre par la foi, comme j'ai déjà mentionné, quelque part, on peut vivre jour après jour, car la Bible dit le lendemain, on aura soin de lui-même. Vous savez, nous sommes dans une telle abondance que ce message peut paraître désuet. Écoutez, qu'est-ce que vous me racontez là, de vivre par la foi, de tout donner? Ça dépend évidemment du pays qu'on visite, de l'endroit où l'on est. On vit tellement dans l'abondance qu'on ne sait plus, on n'est plus conscient que manger tous les jours est un privilège. Il y a un homme qui s'appelait Anthony Norris Groves. Et ça date des années... Il est né en 1795, je vais me dire, mais l'illustration, c'est du passé, mais il y a encore des illustrations présentes, bien sûr. Mais c'était un homme, un Anglais, missionnaire à Bagdad. C'est un homme qui a inauguré la mission protestante évangélique auprès des musulmans. Il est allé en Inde aussi. Il était dentiste de métier, missionnaire. Et regardez ce qu'il a dit. « Travaillez dur, consommez peu, donnez beaucoup et tout pour Christ. » Quel beau leitmotiv. Je répète, travaillez dur, consommez peu, donnez beaucoup et tout pour Christ. Avons-nous un tel cœur pour donner à la mission et se donner d'abord au Seigneur? Alors comment devrions-nous renoncer à tout? Premièrement, je pense que ce qui nous permet de comprendre le principe ici et de l'appliquer dans nos vies et de le vivre, c'est d'accepter de croire de tout notre cœur à la Seigneurie de Jésus-Christ qui a promis de pourvoir à tous nos besoins. Le Seigneur est Seigneur. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur de tout? Vous connaissez, je pense, ce qu'a dit un prédicateur connu, Seigneur Spurgeon, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout? C'est tout simple comme phrase, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Autrement dit, L'idée ici de Spurgeon, c'est où je donne tout et je retiens rien, ou si je prétends que je donne et je retiens, je suis un menteur. Vous savez ce qu'ont fait Ananias et Saphira ? Ils ont menti au Saint-Esprit en acte 5. Ils ont dit aux apôtres, nous avons tout donné, nous avons tout vendu, parce qu'ils voulaient avoir le retour de, regardez, je suis de beaux chrétiens, nous avons fait comme les autres, sauf qu'ils ne l'avaient pas fait avec le cœur rempli du Saint-Esprit. Ils l'avaient fait contrarier, puis ils se disent, oh, finalement, on va garder une partie. Ils ont triché, et Dieu les a châtiés par la mort physique, comme un châtiment exemplaire, pour pas que le mensonge de comportement s'installe dans l'Église primitive. Dieu connaît nos cœurs, et le Seigneur sait ce que nous donnons vraiment et la part que nous retenons. Ne soyons pas hypocrites ou faux ou menteurs devant Dieu. Bon, j'ai envie de vous dire cette anecdote, elle est un peu sévère, je me souviens d'un frère avec qui j'étais, qui voulait grandir dans le Seigneur, c'est pas ici, donc rassurez-vous, vous sentez pas visé. Mais ce frère me disait, moi je donne la dîme, je dis, ah ok. Il se trouvait que, il donnait rien. Mais il m'a dit, oui, je donne la dîme de mon temps. Mais moi, je n'oserais jamais dire ça devant Dieu. Parce que si vraiment on donne la dîme de son temps, tous les jours, c'est 2h40, 24 heures. Enfin, la dîme, ouais, 2,4 heures. Et je peux vous dire qu'il faut être sérieux avec Dieu. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, on ne triche pas avec Dieu. On ne fait pas des calculs sournois pour profiter et faire paraître un don qui n'est pas réel. Ça, c'est du mensonge devant Dieu. Nous devons veiller à vraiment avoir un cœur pur, comme cette pauvre femme qui donnait sa pite et que Dieu a dit, elle a donné tout ce qu'elle possédait. J'ai remarqué, bien aimé, que parfois, pas toujours, hein, faut pas avoir de préjugés contre les riches, c'est un péché cela. Mais c'est parfois les plus pauvres qui sont les plus généreux. Il y a parfois un esprit d'avarice et d'être radin chez certains qui pourraient donner tellement plus dans leur vie. Chrétien ou non chrétien, hein, je ne juge pas du tout, ce n'est pas mon rôle ici. Mais je crois que nous avons besoin d'apprendre à donner. Et c'est vrai que des fois, lorsque nous donnons, on dit voilà, c'est quand même pas mal dans nos vies, notre temps, notre argent, notre vie, même qui est légitime. Et puis tout d'un coup, Dieu nous dit non, il faut encore donner plus. Ça peut être du temps, ça peut être d'autres choses. Et parfois, c'est vrai que si on ne se réfugie pas en Christ, alors ça devient lourd. Mais mon fils, donne-moi ton cœur. Et je pense à ce verset que Dieu nous a laissé, Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni des robes, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre investissement dans le ciel est plus important que tout investissement sur terre. Wesley a dit quelque chose de terrifiant. Vous écoutez ? Il a dit « Amasser des trésors sur la terre est tout aussi clairement défendu par notre maître que l'adultère et le meurtre. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour pouvoir avoir besoin de sa famille et penser même à ses enfants. Mais l'idée ici, c'est que nous ne devons pas avoir cet esprit égoïste de retenir des choses par crainte ou par anxiété, alors que Dieu veut qu'on le lui donne à lui. Après, il est même de nous dire comment donner. Mais souvent, ça commence lorsqu'on se donne à Dieu, et Dieu nous parle. J'aimerais vous raconter, allez, je suis parti dans les anecdotes, excusez. Un jour, j'étais étudiant, je n'étais pas trop riche, je vous l'avoue, mais bon, j'étais quand même gâté. Bon, on va dire que j'étais gâté. Et puis je mangeais, j'aimais pas trop le restaurant, mais j'y allais parce que je savais pas faire la cuisine et je sais pas faire la cuisine encore. Hein. Ceci dit, je mangeais à la maison. Pour une fois, de temps en temps, je mangeais un beefsteak et je faisais des frites. Des fois, j'ai même laissé l'huile brûler sur la poêle et j'étais vraiment pas doué pour ça. Je pensais à autre chose, je dessinais, je faisais toute autre chose. Et puis un jour, je mangeais et puis Dieu me dit, mais tu pensais à Vincent? Je dis, comment ça? Oui, il n'a rien mangé. C'était un cher frère du Tchad. Et Dieu m'a fait lever de ma place, m'a sauvé toute ma vie, parce que c'est Dieu qui me le demandait, tout simplement, parce qu'il y avait un frère qui connaissait qu'il avait un besoin, et il m'a demandé d'aller le voir, et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je n'étais pas bien riche, mais j'ai dû donner. ce que au moins j'avais. Et Dieu l'a donné en retour. Dieu a une sensibilité envers ceux qui sont dans le besoin. Que faisons-nous de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin? Est-ce qu'on est vraiment sensible aux autres? Évidemment, on peut donner à l'œuvre de Dieu et les missions et les besoins. Écoutez, je pense qu'on reçoit du courrier toutes les semaines ici à l'église avec tellement de besoins dans le monde. Il suffit ne serait-ce que prendre une mission, portes ouvertes par exemple, ou d'autres, pour voir qu'il y a tellement de besoins qui sont à combler. On ne peut pas combler tout, mais on peut faire notre part, si petite soit-elle. Moi, j'aimerais vous confesser quelque chose. J'ai envie de vous le dire ce matin. Nous nous réunissons le mardi soir, et je pense qu'on pourrait être plus nombreux. Et je crois que la réunion de prière, c'est la réunion la plus importante de l'Église. Hein. Et nous prions pour l'Église persécutée. Et des fois, la personne lit le sujet, et c'est tellement émouvant. C'est tellement grave la situation. Et moi, j'attends que tout le monde soit en train de crier devant Dieu pour ces gens-là qui souffrent, des gens qui sont tués, violés, persécutés. Et je n'entends pas les prières. Et je me dis, où est la compassion du Seigneur dans les vies? On vient pour prier, et au moment de penser que des gens souffrent mortellement, ayant perdu femme, enfant, ou toutes sortes de choses, la compassion ne s'exprime pas. Et je ne juge pas cela, mais je me dis, quelque part, nos cœurs sont durs. Nos cœurs sont tellement durs, on devient tellement durs qu'on n'a même pas la foi de s'exprimer pour prier que Dieu soulage la souffrance de quelqu'un, un frère, une sœur. Ou alors on n'a pas la foi, et c'est grave d'être incrédule quelque part, ou alors nos cœurs sont tellement durs qu'on ne croit même pas que de prier, Dieu va exaucer. Mais un jour, Dieu va récolter ces prières des enfants de Dieu qui ont prié pour l'Église persécutée et va récompenser ces enfants. Ne serait-ce que pour nous, la joie de savoir qu'un tel a été libéré, qu'un tel a été soulagé matériellement, physiquement, spirituellement. C'est ça l'exaucement déjà visible. Mais est-ce que nous avons la foi vraiment de prier? Mais si vous n'avez pas la foi, ne priez pas. Parce que ce serait vraiment hypocrite devant Dieu. Mais si vous n'avez pas la foi face à un tel sujet, posez-vous des questions si vraiment votre cœur n'est pas devenu insensible. Nous devons être sensibles devant Dieu. Comment pouvons-nous prier, nous donner aux autres si soi-même on ne se donne pas au Seigneur? Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors j'aimerais, j'ai dans mes notes ici, je vous le dis, il y a tellement de besoins, n'est-ce pas? La Bible dit que si on laisse un frère dans le besoin, va, et qu'on ne lui donne pas, alors on ne pratique pas l'amour. N'est mon point en parole, mais en action. Puis en proverbe, je vous le lis, je l'ai sous les yeux, proverbe, la référence, proverbe 11, 24, ça dit ceci: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Autrement dit, celui qui veut toujours amasser, il s'appauvrit. Mais celui qui donne, il s'enrichit. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, Malachie 3, verset 10, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Georges Müller a nourri des centaines d'enfants, des orphelins, recueillis dans ses orphelinats, sans avoir jamais d'argent pour plus de 3 jours. Et Dieu a honoré la foi de cet homme, parce qu'il s'était engagé à glorifier Dieu en croyant et en pensant que Dieu allait pourvoir pour se glorifier aux besoins des autres. Si nous vivons pour les autres, Dieu peut bénir l'œuvre à laquelle nous nous donnons. Il y a un verset qui est extraordinaire en 2 Corinthiens, qui est le principe du don généreux et avec le cœur. Versets 13 à 15. Il est écrit ceci, car il s'agit non de vous. Alors c'est Paul qui parle aux Macédoniens qui ont donné pour la famine qui est à Jérusalem, au-delà même de ce qu'ils possédaient. L'amour fraternel véritable. Il dit au verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira tout à leurs besoins. afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Il faut donner aux autres, puis les autres nous donnent. C'est bizarre, ça, comme principe. Mais l'idée ici, c'est que Paul désire que les gens donnent, et quelque part, ils vont recevoir. Alors, il y a ceux qui peuvent beaucoup donner et ceux qui peuvent moins donner, mais l'idée, c'est d'être prêt à donner. Ce que dit Paul, dans n'importe quelle circonstance, donner. Bon, je vais faire un peu de théologie sur l'offrande, excusez, c'est dans mes notes, mais ça fait partie de la vérité biblique. Les gens, parfois, dans les églises, sont très malheureux de penser qu'il faut parler de l'argent. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai cela, il ne faut pas être malheureux, parce que Jésus en a beaucoup parlé. Et la Bible abondamment parle de savoir comment donner. Alors en résumé, la Bible dit qu'on peut donner la dîme, 10% de ses revenus. On peut faire des offrandes volontaires pour des projets particuliers comme la construction du temple. Il y a des dons d'action de grâce qui est le reflet d'un cœur qui loue le Seigneur pour tous les bienfaits de Dieu. Il y a aussi les promesses de la foi que nous pratiquons. Merci Seigneur, le Seigneur a touché nos cœurs ici dans l'Église et pour le nombre que nous sommes, merci Seigneur pour les dons qui sont là. Pour toucher pour la mission notamment, les promesses de la foi, donner ce qu'on espère que Dieu va nous donner par la foi, c'est le principe. Et puis l'acte de charité qui est donné avec discrétion envers ceux qui sont dans le besoin et qui est toujours donné avec discrétion. Nous allons regarder quelques exemples d'hommes de Dieu, quelques exemples dans la Bible sur les biens et nous terminerons après cela avec une conclusion. Les premiers disciples, il y avait la pauvreté à Jérusalem. Ils se sont réunis, ils ont partagé leurs biens en commun pour nourrir les pauvres, à l'exception d'Ananias et Saphira qui ont triché, n'est-ce pas ? C'était l'esprit de l'Église primitive. Maintenant, je me souviens, j'ai des copains jeunes convertis qui habitaient en Alsace qui ont décidé de se mettre tout en commun, de tout vendre pour vivre ensemble. Et ça n'a pas trop bien marché. Parce que quand on fait cela, il faut avoir l'esprit de l'Église primitive. Puis quand on donne, il ne faut pas penser mettre un élastique pour retrouver ce qu'on a donné. Ça ne marche pas, ça. Il faut donner, point. Je pense à Charles Studd, encore une fois. Je n'ai pas le livre que j'aimerais vous lire, l'extrait, mais vous pouvez juste entendre cela. Il était issu d'une famille très riche. Il était un champion du monde de cricket en Angleterre. Et son papa venait tous les matins lui dire « Charles, as-tu accepté le Seigneur ?» Il résistait. Alors un jour, il a invité un pasteur qui était assez évangéliste pour l'amener au Seigneur. Il dit, celui-là, il va peut-être parler à mon fils Charles. Alors Charles a vu, il faisait une balade à cheval. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est allé à l'écurie, il a donné le cheval qui avait le pire cheval, qui était difficile à conduire. Et il dit, tu vas voir mon prédicateur, il va me baver avec moi. Sauf que le pasteur prédicateur était un bon cavalier, il s'en est très bien sorti. Et puis il est allé voir Charles et il l'a convaincu de se donner au Seigneur. C'est merveilleux. Il a hérité une fortune colossale pour l'époque, Charles Studd. Il a fait des chèques. Mission en Chine, une santé l'or. Un tiers de sa fortune. Armée du salut, un tiers de sa fortune. Puis j'oubliais le reste. Il a dit, Seigneur, maintenant je te fais confiance. Je peux garder de l'argent pour ma femme, l'éducation de mes enfants, mais je ne veux pas être comme le jeune homme riche qui est parti tout triste. Allez, je donne tout. Waouh! Alors, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les allocations familiales, il n'y avait pas Internet pour dire je suis missionnaire en Afrique, mais tout va bien, regarde, je suis en Skype, là, regarde, c'est beau là où je suis. Tout ça n'existait pas. On dit même parfois que les missionnaires, les premiers missionnaires, prenaient leur cercueil comme valise. Comme ça, ils étaient sûrs d'être enterrés au moins dans un cercueil, mais ça servait de valise. Et c'est une histoire vraie, cela. Les gens sont partis en Chine avec Hudson Taylor, sans rien, par la foi, et Dieu les a bénis. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des milliers de chrétiens. George Muller a montré au monde qu'un homme peut vivre par la foi pour glorifier Dieu. Un matin, il a pris le petit déjeuner avec... il avait l'habitude de prier pour le petit déjeuner avec tous ses centaines d'enfants. Et un matin, il a prié et il savait qu'il n'y avait rien. Mais rien, absolument. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien à donner. Pas de pain, pas de lait. Il a prié, il a rendu grâce au Seigneur. Imaginez, humainement parlant. Et vous savez quoi ? Il y a un monsieur qui est arrivé, un charretier, un vendeur de lait, il dit, « Oh, monsieur Muller, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. ma charrette s'est brisée, la roue s'est brisée, regardez tous ces litres de lait que j'ai, je ne sais pas quoi en faire. Je pense que pour vous, l'orphelinat, ce serait utile. Ah oui, oui, d'accord. Il a pris tout ce lait et il a nourri à l'instant même tous ses enfants. Les miracles de Dieu sont un échange de la foi simple parce qu'un cœur donné totalement au Seigneur. Dieu ne se glorifie pas avec des gens qui ont un cœur partagé. Dieu se glorifie avec des gens qui donnent tout, comme Hudson Taylor, qui visitant une famille un jour, un couple dont l'épouse était très malade, et Hudson Taylor était étudiant en médecine, et le couple a supplié qu'il lui donne de l'argent pour pouvoir soigner son épouse, et lui, il avait dans la poche une couronne, la monnaie d'Angleterre, et c'est tout ce qu'il avait pour payer ses études. Il avait fait le calcul, il l'avait mis dans la poche. Vous savez, à cette époque-là, on n'allait pas trop à la banque. Et puis, il a mis la main dans la poche, il tournait la pièce, il dit « Ouais ». Puis, il a compris, là. Il a sorti la main de la poche avec la couronne d'or, il l'a donnée. Et vous savez, parce qu'il a tout donné, un jour, Dieu lui a donné la Chine. Il se mettait à genoux sur la Chine, sur la map monde du monde, et particulièrement sur le pays de Chine. Il priait, il demandait à Dieu d'envoyer des ouvriers. Une année, il a prié pour 10 ouvriers, Dieu lui a envoyé 10 missionnaires. Une année, il a prié pour 100 missionnaires, et Dieu lui a envoyé en une année 100 missionnaires pour conquérir la Chine. Des petites choses, 5 pains, 2 poissons, une petite économie pour acheter une Bible, une couronne d'or dans la poche, toute la fortune, ce à quoi il aurait pu s'accrocher. Seigneur, c'est vital, ce n'est pas du superflu. Le Seigneur l'a béni. J'aimerais vous lire ce qu'a dit Jim Elliot. Jim Elliot est parti comme missionnaire, et peut-être certains connaissent son histoire. Malheureusement, il a été tué par une tribu, les réducteurs de tête. Il était décapité et sa tête a été réduite. Et il est mort comme cela. Et sa femme est revenue à l'endroit où il a été tué pour gagner les femmes du village qui ont gagné leur mari. Et tout le village s'est converti, y compris les bourreaux, les meurtriers de son mari. Quelle belle histoire. Voilà ce que Jim Elliot a dit dans la flamme missionnaire, dans son cœur rempli du Saint-Esprit. Il a dit ceci: « Celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre est un sage. » C'est un calcul. Je peux garder ce que j'ai, mais finalement, je perds. Ou je peux donner tout ce que j'ai, et finalement, je gagne. Et ça, c'est sage. Et je pense à l'apôtre Paul, qui a dit quelque chose d'assez extraordinaire en Philippiens. C'est un des passages que le Seigneur, dans sa grâce, a utilisé dans ma résistance à tout abandonner au début et mon orgueil. Et Paul a dit ceci. Et c'est bouleversant, au verset 7. Il fait un calcul, il vient de dire dans les premiers versets du chapitre 3, tout ce qu'il est, toute l'instruction qu'il a reçue, son rang social et toutes ses ambitions personnelles. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et le mot grec ici, ça pourrait être traduit « ordure ». Autrement dit, il voit sa vie, il voit ce qu'il est en Christ, la richesse de Christ, ce qu'il a en Christ, la vie éternelle, le pardon des péchés, la grâce du Seigneur Jésus, ma grâce te suffit. Puis il regarde à sa vie, il dit « oh ben, la balance, elle est nette. Hein. Ce que j'étais avant, ordure, ce que je suis en Christ maintenant, c'est beaucoup plus glorieux. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Paul avait une passion. Oswald Smith, dans son livre « La passion des hommes », disait « Il faut que l'homme de Dieu soit l'homme d'une seule chose, la passion des âmes. » Et des fois, nous nous divertissons, nous éparpillons par tellement de choses que nous oublions l'essentiel pour lequel le Seigneur nous a placés sur terre. C'est le salut des âmes, c'est sa gloire avant tout, mais c'est le salut des âmes pour qui Christ est mort. Imaginez, vous avez un voisin, vous avez un ami, vous avez un collègue de travail, peut-être un enfant, un père, une mère qui n'est pas sauvé. Est-ce que vous avez vraiment des larmes pour cette personne? Parce que l'éternité, s'il meurt, c'est très long, loin de Dieu. Et c'est très douloureux. Est-ce que nous avons cette vision du ciel et de l'enfer? Est-ce que nous le prenons sérieusement, ce que Dieu a dit au sujet du ciel et de l'enfer? Jésus en a parlé. Il n'est pas question de nous, il est question du ciel et de l'enfer, il est question de la gloire de Dieu. et Dieu a une patience que les gens croient en lui parce qu'il a tout fait pour que les gens croient en lui. Il a donné son fils Jésus-Christ. Et mépriser Jésus-Christ, c'est le seul péché qui mène à l'enfer. C'est le péché d'incrédulité, de refuser Jésus-Christ comme sauveur. Je pense à un autre exemple biblique qui est vraiment touchant, c'est Moïse. Moïse, quelqu'un a dit, Moïse a été élevé 40 ans à la cour des rois pour être quelqu'un. Le Seigneur l'a mis 40 ans dans le désert pour être un rien, et 40 ans comme chef du peuple pour être un rien utilisé par Dieu. C'est assez juste cela. Moïse, il est écrit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aurait pu choisir, voilà, je suis fils de la fille de Pharaon, voilà, peut-être même devenir Pharaon, allez, je vais être quelqu'un. Il dit non, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, c'est-à-dire la gloire des hommes, l'orgueil de la vie, passion de la chair éventuellement. Il regarda l'opprobre que Christ, regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est beau cela, vous ne trouvez pas? Quel bel exemple. Les yeux fixés sur Dieu, c'est tellement plus glorieux que les yeux fixés sur l'ambition. Et il aurait pu être un grand de ce monde. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est merveilleux, la foi. C'est par la foi qu'il moula la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. S'il n'avait pas commencé par la foi, Dieu ne l'aurait pas utilisé ensuite comme chef vivant par la foi. Mais un jour, parce qu'il s'est donné et qu'il a tout donné au Seigneur ce qu'il possédait, Dieu l'a utilisé. Mais il aurait pu garder cela. Et Dieu nous laisse libres de choisir nos vies. Et j'aimerais terminer un exemple avant de conclure. Excusez, quand même une conclusion liée au texte. Mais j'aimerais vous lire, si vous voulez tourner dans vos Bibles et réfléchissez cela cette semaine, ne serait-ce que ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Méditez ce passage, juste ce verset cette semaine. Si vous voulez bien, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Nous ne pouvons pas tout donner si la grâce du Seigneur Jésus n'accomplit pas cette œuvre en nous. N'essayons pas de copier qui que ce soit, mais soyons certains que c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à le faire. Mais le principe ici, c'est que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il y a le principe ici de vivre pour les autres, de se dépouiller pour les autres. Et Dieu l'a fait jusqu'à donner sa vie à la croix. Suis-je prêt à reconnaître ma pauvreté pour me laisser enrichir par Christ? Est-ce que vraiment je reconnais qui je suis réellement? Si on retourne, et c'est la conclusion réellement, si vous voulez bien tourner avec moi en Luc, chapitre 14, j'aimerais vous faire la remarque suivante. Luc 14, versets 28 à 32, c'est ce que nous allons lire. Verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et avant, on a lu l'histoire d'un bâtisseur et d'un guerrier. Quelqu'un qui veut bâtir et quelqu'un qui veut partir à la guerre. Donc, deux bonnes actions apparentes. Mais Dieu, dans cette illustration, nous dit le principe suivant. Calcule bien le prix avant d'aller construire ou de partir en guerre. Est-ce que la vie chrétienne n'est pas une sorte de construction? Est-ce que la vie chrétienne n'est-elle pas un combat? La réponse est, oui, n'est-ce pas? On veut bâtir avec Christ, on veut être en guerre pour Christ, mais attention, ne le faisons pas n'importe comment. Ici, le principe est le suivant, c'est qu'on ne doit pas partir avec ses propres efforts. Si on ne calcule pas le prix avant, le bâtisseur, il peut être confondu. Et le guerrier peut partir face à un adversaire qui est beaucoup plus fort que lui. L'idée du principe ici, c'est qu'il faut apprendre à renoncer. Renoncer pour ne pas agir dans ses forces, mais apprendre à renoncer ce qui semble légitime, une construction, une guerre à l'époque. Bon, il y avait des guerres, ça faisait bien de faire des guerres. Il y avait même des saisons de guerre dans l'Ancien Testament. Moi, ça me bouleverse, mais je préfère voir la Coupe du monde de football de temps en temps, tous les 4 ans, que partir en guerre tous les 4 ans. Bon, ceci dit, il y avait des saisons de guerre. Les gens s'entretuaient, c'était la saison de la guerre. Imaginez, c'était belliqueux au possible. Mais on doit calculer. Avant d'entreprendre quelque chose, qu'on doit renoncer. Le principe est le suivant, c'est renoncer à tout, renoncer à ce que l'on possède, afin de ne pas tout perdre. Parce que si on fait un calcul de prendre ce que l'on a et qu'on ne l'utilise pas au bon moment, au bon endroit, on peut tout perdre. Renoncer à soi-même, c'est se dépouiller pour entrer dans la volonté de Dieu. Et le temps est là où Dieu nous demande de renoncer afin de ne pas perdre, afin de ne pas croire que ce que l'on a est suffisant ou va nous permettre de conquérir, construire, faire des projets. Attention, n'agissons pas de nous-mêmes. C'est l'avertissement, je pense, qui est là. Avant, calcul. Et le principe, c'est renonce. Vous savez, le plus grand problème que Dieu a, certainement, avec chacun de nous, c'est tout ce qu'on fait pour essayer de lui plaire. Alors que lui, il ne cherche qu'une chose, c'est de nous aimer. Laissons vivre le Christ au travers de nous. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui renonce à tout pour accepter la signerie de Jésus-Christ est un gagnant. Perdre, c'est gagner. Perdre, donner, c'est pas perdre, c'est gagner. S'offrir à Dieu, c'est pas perdre, c'est gagner. Souvenez Anne, pauvre femme, tellement éprouvée, sans enfant. Dieu lui a donné un fils et elle l'a donné au Seigneur. Samuel, un prophète, type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Elle a donné le meilleur. Et Dieu lui a donné après des fils et des filles en récompense. C'est extraordinaire cela. Dieu nous bénit, bien-aimés, lorsque nous osons tout donner. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? On vit dans un monde tellement matérialiste, qu'on oublie qu'on doit d'abord dépendre de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Prions, s'il vous plaît. Seigneur éternel, puisses-tu parler à nos cœurs, que ce passage ne nous laisse pas indifférents. Donne-nous de prendre les bonnes décisions, de ne pas être des auditeurs oublieux. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Tu vois, notre problème, c'est de ne pas se donner à toi. Aide-nous vraiment à nous donner à toi sans retenir. Glorifie ton nom, Seigneur. Toi qui as tout donné à la croix pour chacun de nous, glorifie ton nom. Qu'on ne garde pas quoi que ce soit qui te déplaise, Seigneur. Tu transformes nos vies, Seigneur. Nous sommes misérables sans toi. Nous avons besoin de toi jusqu'à ce que tu nous prennes avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Viens, viens, Seigneur Jésus. Amen.